Waves, le podcast de Casoar. Salut à tous, ici l'équipe de Waves, le podcast de Casoar. Nous sommes une bande d'amis spécialisés en art et en anthropologie de l'Océanie. Casoar, c'est le nom d'un drôle d'oiseau du Pacifique, mais c'est aussi le nom de notre blog, né en 2017, et de son association fondée en 2018. Notre podcast Waves est donc le petit dernier du projet Casoar. Pas la peine d'être un fondu d'anthropologie pour nous écouter et participer. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous voulons surtout discuter librement et sans se prendre la tête. On vous laisse donc avec notre épisode d'introduction, l'épisode 0. Mais à quoi ça sert l'anthropologie ? Bonne écoute !
Généralement, quand je dis que je fais de l'anthropologie à des gens qui ne sont pas anthropologues, on me répond avec un grand sourire « Ah, mais oui, bien sûr, évidemment. » Et moi, je vois bien dans leurs yeux qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'anthropologie. Et il y a même quelques mois, une copine m'a clairement dit « Bon, non, mais de toute façon, personne ne comprend ce que tu fais. » Et c'était un petit peu étonnant, c'était un petit peu étrange d'entendre ça. Et en même temps, je me suis dit que c'était intéressant parce que quelque part, ça montre qu'il y a vraiment une nécessité de parler un peu plus de ce qu'est l'anthropologie et de ce qu'on fait en anthropologie.
Ce que décrit Garance, tous mes collègues l'ont déjà entendu au moins une fois. Vous-même, vous vous êtes certainement déjà demandé en quoi consistait mon métier et à quoi il pouvait bien servir. Je m'appelle Alice Bernadac, je suis anthropologue et je vous propose de partir aujourd'hui, avec l'équipe de Waves, à la découverte de cette discipline souvent mal connue. Pour expliquer ce qu'est l'anthropologie, il faut d'abord commencer par expliquer ce qu'elle n'est pas. Quand on dit « anthropologue », beaucoup de gens pensent immédiatement à la série américaine Bones, dont l'héroïne analyse des corps humains décomposés dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Cela donne parfois lieu à de sacrés malentendus. Écoutez par exemple ce qui est arrivé à Enzo.
Un soir, j'étais en train de boire un verre avec des amis et de la famille sur une terrasse, et de la terrasse du dessus tombaient des verres. Donc on se demandait ce qui se passait sur la terrasse du dessus. Et là, quelqu'un a dit que c'était à moi d'aller mener l'enquête et d'aller voir à l'étage supérieur parce qu'il y avait certainement un corps en décomposition et parce que j'étais anthropologue, c'était à moi de le faire.
Il existe effectivement des personnes qui sont capables, à partir de l'étude des ossements humains, de formuler des hypothèses sur le régime alimentaire, le mode de vie, les maladies ou la cause de la mort de la personne concernée. En France, on les appelle des ethno-archéologues. Mais aux États-Unis, le terme qui les désigne est bien « anthropologist », anthropologue donc. Pourtant, nous ne faisons pas du tout le même métier. C'est qu'il existe en fait deux anthropologies, l'anthropologie physique et l'anthropologie sociale. Au milieu du 19e siècle, on commence à parler d'une nouvelle discipline scientifique, l'anthropologie. En France, c'est à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, que ça se passe. À ce moment-là, le terme d'anthropologie désigne plutôt l'étude de l'anatomie humaine dans le but de classer l'humanité en différentes races en fonction de caractéristiques physiques. Cela semble aujourd'hui choquant, et heureusement. Mais à l'époque, les scientifiques occidentaux s'accordent tous pour reconnaître l'existence de différentes races humaines et pour établir une hiérarchie entre elles. Au sommet de l'échelle, l'Europe civilisée et en bas de l'échelle, les populations non occidentales considérées comme sauvages. C'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme. C'est une théorie utilisée au service de la colonisation en plein essor à la fin du 19e siècle. Pour étudier les différentes populations, les anthropologues de l'époque travaillent avec des moulages, des photographies, des mesures et des ossements, le plus souvent sans le consentement des personnes concernées. Au début du 20e siècle, l'anthropologie commence à s'intéresser aux cultures, au fonctionnement des sociétés, aux objets que ces sociétés produisent, et donc à un tas de sujets qui dépassent le cadre de l'étude physique. Progressivement, l'idée qu'il existe différentes races humaines est abandonnée. Mais la confusion entre anthropologie physique et sociale perdure. L'anthropologie reste fortement associée dans les esprits à la colonisation, comme en témoigne Marion.
Peut-être par des formations professionnelles, je trouve toujours assez fascinantes les réactions des personnes que, quand on leur explique qu'on est étudiant en anthropologie. Quand je dis à certaines personnes que je suis doctorante en anthropologie, je sens qu'il y en a une grande partie qui m'imagine tout de suite partir dans la jungle avec limite un casque colonial et une saharienne pour aller affronter des tribus lointaines et tout un imaginaire qui va autour.
On ne peut effectivement pas nier que l'anthropologie et la colonisation aient eu des liens intimes. Mais la discipline a évolué avec son temps. Et encore aujourd'hui, elle se remet en question face à cet héritage. Alors, faire de l'anthropologie sociale, ça consiste en quoi ? L'anthropologie, c'est la discipline qui étudie les sociétés et les cultures humaines. C'est simple, du moment qu'il y a des humains, c'est un sujet anthropologique. Mais du coup, c'est aussi un peu vaste. C'est pour ça que, souvent, les anthropologues se spécialisent dans un domaine particulier. On fait toujours de l'anthropologie de quelque chose. De la santé, de la religion, de l'art, du politique. Pour étudier ces sujets, il faut rassembler des données. On va aller dans les archives, en bibliothèque, mais aussi récolter des données fraîches directement auprès des gens. C'est ce qu'on appelle un terrain. Ce mot désigne à la fois le moment de l'étude et le groupe social qu'on va choisir d'étudier. Ça peut aussi bien être les habitants d'un quartier, les adhérents d'un parti politique, les fidèles d'une religion. Tout le monde peut y passer. Sur le terrain, les anthropologues ont recours à une méthode qu'on appelle l'observation participant. Ça consiste simplement à vivre avec les gens. On va participer à leurs activités, apprendre leur langue, et poser des questions sur à peu près tout ce qu'ils font ou disent. C'est un peu comme être un enfant. Pourquoi tu fais ça? Et ça? Et ça? On doit parfois être un peu fatigant pour les gens autour. L'anthropologue peut aussi rassembler des vidéos, des enregistrements de conversations, des chants, des mélodies, collecter des objets ou faire des croquis. Un terrain, on peut aller le faire très loin de chez soi, mais aussi dans le bar au coin de sa rue. C'est ce qu'a fait Enzo.
Mon premier terrain anthropologique, c'était pour un cours à Nanterre, et le sujet, c'était d'étudier les bars à Montreuil. Donc mon premier terrain, ça a été juste de boire des bières dans des bars à Montreuil. Plutôt sympathique.
En bref, on peut faire du terrain partout. On peut même prendre pour sujet les péages d'autoroute ou le métro. D'ailleurs, ça a déjà été fait, par un anthropologue français qui s'appelle Marc Auger. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qu'est l'anthropologie, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ?
Alors de mon côté, ce sont mes lectures d'enfance qui ont d'abord éveillé mon intérêt pour des cultures extérieures à la mienne. C'est arrivé notamment grâce à ma mère, qui a eu l'excellente idée de m'éduquer en me mettant entre les mains des contes et des histoires en provenance d'Afrique ou d'Océanie. Et donc ça m'a aidé à prendre de la distance par rapport à ma propre culture. Et grâce à ça, j'ai abordé la question du regard porté sur l'autre très tôt, et ça a beaucoup contribué à m'ouvrir l'esprit pour mieux me préparer à la réflexion anthropologique.
Nous venons d'entendre Elsa, qui témoigne de sa curiosité pour les autres cultures qui lui vient de ses lectures enfantines. La curiosité est à la base des questions que nous nous posons tous sur les autres, leurs habitudes, leurs différences. Lorsque nous nous posons ces questions, nous sommes alors, sans le savoir, au tout début d'une démarche anthropologique. En fait, l'anthropologie nous offre des clés de lecture et une méthode pour tenter de répondre à ces questions.
Quand j'étais petit, je passais tous les midis et après-midi chez ma grand-mère vietnamienne. Et elle avait toujours une déco très chargée, avec beaucoup de bricoles un peu partout, et en discutant avec d'autres personnes d'origine vietnamienne, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de commun dans l'organisation de la décoration, et les mêmes éléments étaient un peu partout.
C'est au contact de son environnement proche qu'Enzo a commencé à se questionner sur les différences culturelles. Pour une autre collègue, Corinne, c'est la lecture qui a été un élément déclencheur. Lorsqu'elle a débuté l'anthropologie, Corinne a rapidement croisé l'un des grands noms de la discipline, Claude Lévi-Strauss. Elle a lu l'un de ses essais majeurs, Race et Histoire, dans lequel il définit une notion très importante, celle d'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait de juger une autre culture d'après les habitudes et les valeurs issues de notre propre culture. C'est ce qui va déclencher des commentaires du type « ça c'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre ça ». C'est cette lecture qui a encouragé Corinne à questionner sa propre vision du monde.
Bien que j'étais déjà familière à une certaine diversité, j'ai pris conscience que la société dans laquelle j'avais grandi ou l'entourage qui m'avait élevée influençait énormément ma perception des choses ou des autres et les jugements qui leur étaient liés. Ça m'a alors donné envie de débuter une déconstruction en moi-même pour développer une compréhension plus juste et donc meilleure de ma propre culture, mais aussi et surtout des autres cultures que je rencontrais de diverses manières.
Corinne pointe du doigt la nécessité d'une déconstruction, c'est-à-dire d'une prise de recul par rapport à notre propre façon de penser et de nous positionner par rapport aux autres. Cette déconstruction constitue sans doute le premier défi de l'anthropologue. En réalité, il est impossible de se défaire complètement de son ethnocentrisme. Mais l'anthropologue doit être conscient de l'empreinte laissée sur lui par son éducation et chercher jour après jour à prendre du recul. Corinne et Enzo nous ont parlé de leur démarche pour tenter de comprendre les autres. L'autre, la différence, c'est quelque chose dont nous faisons tous quotidiennement l'expérience. Mais l'anthropologie n'est pas uniquement une réflexion sur les autres cultures. C'est ce que nous explique Camille.
J'ai eu l'impression de devenir beaucoup plus souple avec ma pensée et de résoudre même certains problèmes qui, pour moi, étaient très importants. Par exemple, je cherchais souvent ma place en tant qu'artiste. Je me sentais inutile parce que j'étais ni pompier, ni médecin, ni enseignante. J'avais l'impression de servir à rien pour cette société. Et quand j'ai appris, par exemple, ce qu'était un artiste aborigène qui ne faisait rien d'autre que poursuivre en fait ce que la nature faisait et qui était partie entière de la nature, j'ai arrêté de me poser la question de mon utilité. Et c'est ce changement de profil, ce changement de regard que m'a apporté l'anthropologie et qui finalement m'a permis de résoudre mes questions internes. Et c'est aussi ça l'anthropologie. Ça permet certes de changer le monde, de changer la société, parce qu'il y a une vision politique surtout, mais ça permet aussi de se changer soi. Et c'est pour ça que je pense que chacun aurait une utilité à étudier l'anthropologie.
L'anthropologie est donc aussi une opportunité de réfléchir à la place que nous occupons dans notre propre société. Questionner sa place revient à remettre en question cette société, son organisation. On se demande alors ce qu'est cette société et comment elle fonctionne. L'anthropologie permet justement de développer une réflexion critique sur la société dans laquelle nous vivons, sur la façon dont elle organise les choses autour de nous. Elle permet de remettre en question les normes sociales, comme le montre Margot.
L'anthropologie m'a appris que les phrases telles que « c'est la nature », « c'est dans ta nature » ou « c'est contre nature », brandies à tout va pour justifier ou condamner certains comportements, ne faisaient finalement pas du tout le poids.
Le fait de considérer un comportement, une action ou une idée comme, entre guillemets, « naturelle » est en effet complètement remis en question par l'anthropologie. Ce qui nous semble à première vue naturel n'est que quelque chose que nous avons appris au sein de notre société et intégré à notre manière de penser et de voir le monde. Prenons un exemple. Dans la société occidentale, on répartit les individus en deux catégories, les hommes et les femmes. L'anthropologie s'est intéressée très tôt à cette question. Dès les années 1930, une anthropologue américaine appelée Margaret Mead montre que les comportements que nous avons tendance à vouloir associer naturellement aux hommes et aux femmes sont en fait des constructions sociales, c'est-à-dire des choses qu'on a apprises et transmises, et qui ne sont pas du tout liées à des réalités biologiques. Quand on dit « un homme, ça ne pleure pas » ou « les femmes sont plus douces », ça n'a rien à voir avec des histoires d'hormones, ça vient en fait de l'éducation. Les catégories « hommes » et « femmes » elles-mêmes sont d'ailleurs des constructions sociales qui sont différentes dans chaque société. C'est ce qu'on appelle le genre. Alors, évidemment, remettre en question à ce point notre façon de penser et de voir les choses, ça a un impact sur la société. Et ça ne passe pas forcément bien auprès de tout le monde. Margaret Mead avait l'habitude d'écrire des versions plus grand public de ses livres, dans lesquelles elle parlait de sexualité, de lutte pour les droits des femmes et des personnes homosexuelles. À travers ses travaux de recherche, elle avait donc un engagement politique très concret et était cordialement détestée par les conservateurs américains. On voit bien ici que l'anthropologie n'est pas une discipline hors sol, mais qu'elle peut agir directement sur la société. Alors finalement, à quoi ça sert l'anthropologie ? On a vu que l'anthropologie prend ses sources dans la démarche de colonisation, à un moment où les scientifiques cherchaient à classer l'humanité en différentes races. Mais depuis ce temps, la discipline a beaucoup évolué. Elle s'intéresse, à travers énormément de domaines et de sujets différents, à l'humain, ses sociétés et ses cultures. À travers tous les témoignages, on a compris qu'on fait de l'anthropologie parce qu'on est curieux. Curieux de l'autre, mais aussi de soi. Parce qu'on veut comprendre comment fonctionnent nos rapports sociaux, notre société et celle des autres. L'anthropologie nous aide à comprendre, à expliquer et à remettre en question les normes sociales. Elle peut ainsi intervenir dans le cadre de luttes pour se positionner dans un débat. L'anthropologie a donc ce double impact. Elle agit sur le monde et la société, mais aussi sur nous-mêmes. Comme le disait Margaret Mead, quand on n'est pas satisfait de soi-même, on se fait psychologue. Quand on n'est pas satisfait de sa société, on se fait sociologue. Quand on est satisfait ni de soi-même, ni de sa société, on se fait anthropologue. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast de Waves. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager, vous aussi, vos témoignages et vos réactions sur les thèmes abordés. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode.
Waves est un podcast écrit par l'équipe de Casoar. Vous avez entendu les témoignages d'Alice, de Garance, Marion, Enzo, Corinne, Camille, Elsa et Margot. Nous remercions Joseph Bijon pour la composition du jingle et Mathieu Gendre pour la prise de son.